Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Richard Fonder, en partenariat avec GFIP et JPA International.
Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos émissions. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter semaine après semaine. Et je fais un petit coucou amical à Pauline qui va revenir très vite, rassurez-vous. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Guillaume Dezinel, dirigeant et associé de GFIP, et Damien Potvin, président de JPA Group. Bonjour messieurs.
Bonjour Richard.
Bonjour Richard.
Aujourd'hui nous recevons Frédéric Timbert, président de Timbert Productions. Bonjour Frédéric.
Bonjour Richard.
Alors, vous avez fait des études d'électromécanique et très jeune, vous décidez de lancer votre propre entreprise pour gérer votre temps et être libre, c'est ça ?
Eh bien, c'est tout à fait ça. Être libre, c'est la plus belle des choses qui puisse arriver, en tout cas à l'homme, d'une manière en général, libre de son destin, libre de ses choix. C'est extraordinaire et c'est la plus belle des choses, oui. C'est ce que je voulais faire.
Donc, c'est en 90, vous créez Timbert Productions, une société spécialisée dans ?
Les balances. Quelle idée ?
Incroyable.
Incroyable.
Mais pourquoi ?
36 ans, c'est-à-dire que mon entreprise a 36 ans, je ne fais que ça de ma vie.
Ce qui est jeune.
Fabriquer, oui, j'étais jeune. Fabriquer, concevoir, imaginer des balances. Pourquoi ? Parce qu'une raison simple, mon père était entrepreneur, mon grand-père était entrepreneur et je voulais être entrepreneur. Pour simplement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avoir la liberté de mes choix et surtout personne au-dessus de moi qui me dicte ce que je dois faire. Ça peut être une bonne route ou une mauvaise, en tout cas moi je voulais la mienne. Et j'ai une fibre technique parce que j'ai fait des études techniques, ça m'a toujours passionné. Mon père m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup aidé et c'est comme ça que j'ai créé l'entreprise.
Bon, c'est pas des balances pour Madame Michu, c'est pour les...
Ah, Madame Michu, je laisse ça de côté.
Oui, que j'adore.
Oui, ben, moi aussi. Non, ce sont des balances uniquement pour les professionnels, c'est-à-dire on travaille en B2B dans des métiers totalement différents. C'est au départ purement industriel, tout ce qui est équipement de pesage pour des chariots élévateurs, des transpalettes électriques, mais les plateformes au sol, la balance du pharmacien, la balance pour peser l'or, ça peut arriver aussi.
Ouais,
la balance pour les métiers de bouche, boulanger, pâtissier, restauration. Et on est devenu des leaders en France en commençant avec zéro produit. Aujourd'hui, on a plus de 2000.
35 ans, c'est jeune, comme je disais, mais en même temps, c'est un bel âge. Il doit y avoir des belles histoires. Comment la plus belle, votre meilleur souvenir, ce serait quoi ? C'est le début ?
C'est pas le début, parce que le début, c'est difficile, mais c'était même pas le propos. J'ai eu la chance de faire ce que je voulais. Des belles histoires, il y en a une qui me revient tout le temps, parce que celle-là, c'est extraordinaire. Nous sommes une petite PME, vraiment la typique, la PME familiale, pardon. Et tout le monde me disait, fabriquer en France des balances, c'est pas possible. Tu vas pas y arriver. Et je me suis donné un challenge, moi, de fabriquer des balances à 400 €. Je le donne à un, parce que les Chinois sont là. Les Chinois, ils vont faire mieux que toi. Je dis, moi, je vais y arriver. J'ai mis 2 ans. On a repensé autrement une balance. Le fait de repenser autrement, j'ai oublié tout ce que je savais faire. Pour au niveau du design et de la fabrication, j'étais suivi par des industriels français qui m'ont apporté leurs machines et qui m'ont aidé. Parce que nous, on ne fabrique pas en tant que tel, on conçoit, et c'est les sous-traitants en France qui fabriquent pour nous. Cette balance, personne n'y croyait, je l'ai créée, je l'ai fait certifier Origine France Garantie pour prouver qu'on fabriquerait bien en France. Parce que le français est toujours dubitatif quand on dit qu'on fait du Made in France. Et cette balance m'a permis de gagner un prix, d'être reçu par le président de la République. Pour une petite PME qui fabrique des balances, qui vit à la campagne à côté de Fontainebleau, pour moi, c'était extraordinaire. D'une part, j'étais assez fier quand même, pour mes employés aussi, et ça m'a donné une reconnaissance au niveau de nos clients et puis des futurs clients. Ça, c'est une liste. Pour moi, c'est la plus belle des histoires.
Oui, je suis d'accord. Effectivement. Combien de chiffre d'affaires aujourd'hui, on peut savoir ?
À peu près, oui, rien de secret. Environ 3 millions d'euros, nous sommes 6.
Pas mal, pas mal du tout.
6, donc comme je disais, personne directement au bureau, on est plus un bureau d'ingénierie.
Ouais.
Et ensuite, nous avons énormément de sous-traitants. Tout ce qu'on fait en France est sous-traité en France. Et indirectement, ça fait travailler une vingtaine, 20, 25 personnes, ça dépend des moments de l'année.
On va voir ça en détail, Damien.
Alors, vous êtes constructeur français, engagé dans la qualité, et surtout les circuits courts. Donc, vous semblez pouvoir nous confirmer, mais j'aimerais que vous le disiez quand même, qu'il est possible de fabriquer en France de manière compétitive et dans quelles conditions économiques ou d'intelligence ou de création on peut y arriver encore en France.
Bien évidemment, on peut y arriver dans la mesure où on est capable de repenser les produits, d'imaginer autrement et de ne pas copier comme font les autres. En France, on a des entreprises extraordinaires, des savoir-faire, des gens qui, en Europe, ce sont les Français qui travaillent le plus et le mieux, malgré ce qu'on pourrait croire. En France, on a une vraie volonté de faire des belles choses. On a des très belles usines, comme je le disais. Oui, en France, c'est possible, mais à une condition d'avoir à l'esprit, on ne peut pas tout faire. On parle de pesage, je ne peux pas fabriquer un pèse-personne. Oui. Pas que je n'y arriverai pas, c'est que le prix d'un pèse-personne emballé avec la pile qui arrive en France dans une belle boîte, ça coûte 5 euros. Enfin, 5 dollars, je vais faire simple. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ça, c'est les prix que je peux avoir, moi, en tant que petit fabricant. Par contre, fabriquer des petites séries, réinventer un produit, comme on parlait tout à l'heure de la balance française que l'on a sortie, qui s'appelle Ruby, moi, je fabrique... Tous les ans, on sort environ un nouveau produit fabriqué en France. Comme quoi, c'est possible. Je ne suis pas un magicien, ben, ça saurait. Je suis simplement quelqu'un qui a une vision, qui sait fabriquer, mais qui est capable de se remettre en cause pour voir autrement les produits, et que ce soit des balances ou autre chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs qui fabriquaient en France. Il suffit de croire, et parfois, surtout de se dire, stop, c'est pas possible aussi.
Oui, évidemment. Guillaume.
Frédéric, dans une économie numérique où tout devient virtuel, la précision des mesures physiques reste-t-elle un enjeu stratégique?
Elle restera toujours, parce qu'il n'y a pas de virtuel dans le poids. Mais non, en fait, il faut peser, il faut des machines, il faut qu'elles existent. Aujourd'hui, on peut faire plein de choses, mais en tout cas, rien ne remplacera une balance. L'enjeu dans le virtuel, c'est que... Eh bien, c'est que dans mon métier, je pense que je resterai toujours avec des objets bien, bien réels. Ouais, c'est... Maintenant, ça peut changer, parce qu'une balance, c'est quoi? C'est un capteur mécanique qui bouge et qui envoie une tension électrique pour en ressentir un poids. Il faut de la mécanique. Maintenant, demain, les objets, ça peut aussi évoluer et changer, bien évidemment, tout est possible. Mais aujourd'hui, ça reste des vieux métiers. C'est un vieux métier, des vieux savoir-faire. Évidemment, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, mais ça ne révolutionnera pas le pesage, en tout cas, que je fais moi aujourd'hui, pour le marché, que ce soit français, peu importe, parce qu'on fabrique tous de la même façon.
Si un jeune entrepreneur vous écoute aujourd'hui et veut créer son entreprise en France, quel conseil essentiel vous lui donneriez et surtout quelle erreur devrait-il absolument éviter?
Je vais commencer par l'erreur, c'est de croire que son projet c'est le meilleur au monde et que personne n'y a pensé. Parce que c'est souvent comme ça, malheureusement ou heureusement. C'est être capable de se remettre en cause et puis d'aller au bout de ses idées et d'être capable de la changer. Vous savez, quand moi je commence un projet, j'en ai que 5 ou 10%, on va dire, dans la tête, et c'est le faire évoluer au fur et à mesure du temps, d'être capable d'avancer, de savoir changer ses idées, de se dire, mince, je me trompe et je change de voie. C'est pas grave, c'est d'aller au bout de son idée. Être entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut avancer sur un chemin. Après, quel chemin? C'est comme si j'étais au bord d'un tronc d'arbre, des chemins. Il y en a plein, c'est les branches, lequel je prends. Il faut être capable d'écouter, en fait, savoir une grande écoute et surtout de savoir s'entourer. Mais savoir s'entourer, c'est aller poser des questions aux gens et ne pas rester seul. Parce que la maladie d'un entrepreneur, petit, grand, c'est d'être seul, souvent.
Ok, oui. Damien.
Alors vous êtes une jolie PME avec un vrai savoir-faire, mais même si la France reste votre principal marché, je crois comprendre que vous allez un peu à l'export, notamment dans les pays du Golfe. Et comme aujourd'hui, voilà, une petite PME comme vous, parce que 4 millions, c'est un beau chiffre d'affaires, mais néanmoins, ça reste d'une certaine mesure. Comment on arrive à faire ce développement? Comment, sur un métier de niche comme ça, on arrive à prendre des contrats un peu à l'international? Vous voyagez, c'est par Internet, comment ça se passe?
Il faut y croire. Alors comment? Parce qu'il faut y croire, c'est pas la réponse. Simplement, en fait, les Émirats, je travaille beaucoup aux Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite dans cette sphère-là. Pourquoi? Parce qu'un jour, je me suis réveillé. Enfin, je fais un raccourci, mais c'est ça l'histoire. Je me suis dit, on va à Dubaï. Alors moi, je suis pas influenceur, hein, bien évidemment, mais à Dubaï, moi, je vais aller vendre des balances. Je vais aller vendre des balances. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de pâtissiers. Je travaille énormément en pâtisserie. Il y a beaucoup de boulangers, beaucoup de métiers de bouche, beaucoup de restaurants. S'il y a des hôtels, il y a des restaurants. Et je me suis dit, je vais aller essayer d'aller vendre des balances à Dubaï. Évidemment, on m'a dit que tu veux faire là à Dubaï. Et j'y suis allé. J'ai pris la chambre de commerce qui était à Dubaï, donc Franco Dubaïote, je sais plus le terme exact, mais c'était ça. Et puis, j'ai fait du porte à porte. J'ai allé voir des revendeurs. Et puis je rêvais un jour, je vais aller vendre à Dubaï. Je suis pas plus bête qu'un autre, avec un anglais 50-50. En fait, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'y vais et je me débrouille sur place. Et c'est comme ça qu'on a réussi à développer à Dubaï. Parce qu'il suffit d'aller. Pour moi, c'est une nouvelle aventure qui commence à chaque fois. Et c'est me dire, je suis capable, je veux y aller. Je ne veux pas avoir de regrets. Je ne fais pas pour dire, je veux gagner plus. Je dis, je veux arriver, je veux réussir à vendre à Dubaï. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, Dubaï et tout le reste maintenant. Et bien après, on raconte des histoires. Et des belles histoires. Et quand je vois mes clients, je dis, moi, je vends là, voilà comment j'ai fait. Ils disent, cette entreprise-là, ils sont capables d'aller plus loin. Après, je me fais aider, il y a des gens qui m'accompagnent au fur et à mesure, mais au départ, j'y vais tout seul. parce que j'ai une bonne équipe aussi, même à 6 autour de moi.
Incroyable, c'est bien.
Et je crois comprendre que pour vous, le digital, la transformation digitale était un vrai effet de levier. Et maintenant, comment vous intégrez l'IA dans vos process? Ça vous aide beaucoup ou pas?
Ça, c'est une bonne question. Je m'y attendais à celle-là.
Bon, l'IA, les autres n'étaient pas terribles, mais celle-là, c'est une bonne question.
Celle-là, elle est vraiment très, très bien. Blague à part, l'IA, est une, on peut en parler, c'est une nécessité. De toute façon, elle est dans l'air du temps. Soit on la met de côté en disant, moi, ça ne m'intéresse pas, je vends des balances, je n'ai pas besoin d'IA. Mais si, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour enlever des tâches, je vais dire, qui ne sont pas intéressantes du tout à mes employés. Par exemple, tout ce qui est documentaire, tout ce qui est recherche d'éléments techniques sur les balances, on met tout dans une IA pour aller rechercher facilement, que ce soit des documentations techniques, des notices d'utilisation, pardon, des pièces détachées, etc. Donc l'IA, pour nous, est utilisée à ce stade-là, pardon, mais pas ailleurs à aujourd'hui. En tout cas, pas pour fabriquer, pas pour imaginer, mais au niveau documentaire, ce qui est déjà beaucoup. Ça fait gagner énormément de temps. D'accord. Et ça supprime personne chez moi, puisque les gens qui le faisaient, on ne le faisait pas forcément à 100%. Aujourd'hui, on le fait très, très bien. Et puis, ils font autre chose pendant ce temps-là, de plus intéressant.
Merci beaucoup, Frédéric. Vous êtes formidable. Voilà, un invité qui pèse, comme on dit. Merci également, Guillaume. Merci. Et Damien. Vous êtes formidable aussi. Fans de ce numéro de PME Radio, retrouvez toutes nos émissions sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. On se retrouve jeudi prochain à 14h très précise pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.